France Musique. Les grands entretiens. Lionel Esparza.
Je suis Olivier Beaumont, claveciniste. Je suis né le 15 août 1960 à Saint-Dié dans les Vosges.
Olivier Beaumont, il y a une personnalité importante dans cette époque-là, telle qu'on la regarde nous, le milieu des années 80, c'est évidemment Gustave Léonard, qui a l'air comme pédagogue et comme musicien de dominer un petit peu, d'occuper l'espace. Est-ce que vous le rencontrez, vous, à cette période ?
Oui, monsieur Gustave Léonard, je pense que c'est un des 10 plus grands musiciens du siècle, je pense, très clairement. Donc je ne suis pas son élève, je n'ai pas travaillé avec lui, mais simplement il m'a invité à plusieurs reprises à venir à ses cours à Cologne. Donc je ne le considère pas comme son élève régulier du tout, mais il avait ses cours à Cologne tous les ans pendant une semaine où il invitait lui-même, je pense, 8 clavecinistes à venir travailler avec lui pendant une semaine sur un sujet précis. Donc on avait travaillé Musique Froberger, les partitas de Bach, plein de choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris en peu de temps. Vous savez, vous jouez une ou deux fois pour Léonard et vous avez déjà des matières à vous nourrir pour une année. Je retiens tellement de choses de lui aussi par les disques, par les concerts. L'incroyable qualité du son, je pense, la plus belle sonorité qu'on puisse imaginer à l'instrument, je pense vraiment pour moi. La science de la polyphonie, la façon surtout de ce que j'ai beaucoup retenu les premières fois où j'étais venu à Cologne, c'est de rendre tellement vivant la polyphonie, enfin c'est cet art de rendre comme des personnes qui parlent, comme disait Bach, qui parlent entre elles, cette science de la polyphonie, cette vie dans la polyphonie, qui on pense toujours que la polyphonie, c'est un style un peu sévère, etc. Et donc, il arrive à insuffler une vie et une indépendance entre les voix qui était juste assez vertigineuse. Donc, c'est quelqu'un qui, effectivement, m'a beaucoup marqué, même si, encore une fois, je me considère pas du tout comme son élève.
Olivier Beaumont, la formation, c'est pas seulement les gens qu'on rencontre, c'est les lieux qu'on visite. En 1985, vous allez pour la première fois à Venise. Bon, c'est un voyage touristique, c'est secondaire. Mais c'est pas si secondaire que ça pour vous, je crois.
Oui, c'était pas un voyage touristique, en l'occurrence, parce que j'étais très fier d'aller à Venise la première fois pour faire mon métier de musicien. En fait, il y avait une série à la Péniche Opéra avec Mireille Laroche, qui était une formidable metteuse en scène, on va dire. Et donc, c'était un spectacle sur Venise avec les madrigaux La Barca de Venezia per Padova de Banchieri. Et puis une œuvre contemporaine de Claude Prêt qui s'appelait Venise haut comme haut. Et donc c'était avec 5 chanteurs, dont Dominique Wyss, enfin beaucoup de gens merveilleux, la regrettée Sophie Boulin d'ailleurs. Et donc on a été faire ce spectacle à la Scuola San Rocco, qui est juste à côté des Frari à Venise. Donc voilà, mes lieux de prédilection ne sont pas très originaux. Entre Versailles et Venise, ce n'est pas très original. Mais en l'occurrence, l'originalité n'a que peu à faire. On a plutôt envie de céder à l'éloge plutôt qu'à une forme d'originalité qui serait un peu artificielle. Donc j'ai découvert Venise de nuit en plus, je pense, parce qu'on est arrivé à un avion tard, donc on prend le vaporeté, on découvre ces palais un peu illuminés, mais pas complètement. Et c'est vrai que là aussi, on ne se remet jamais de cette vision-là, je pense. Donc j'ai jamais été un an sans aller à Venise depuis, je pense, une année, sauf au période du confinement. Donc je vais me rattraper parce que j'y étais il y a juste un mois, et je pense que je vais y retourner avant Noël, parce que faire deux fois en peu de temps, pour combler le manque pendant la pandémie.
Et pourquoi Venise? Je veux dire, c'est pour cette histoire, justement, c'est pour le côté parce que crépusculaire aussi.
Oui, c'est le côté aussi, je pense, la réunion de ce site géographique comme inouï, en fait, c'est cette lagune qu'on rencontre pas si souvent, et puis ces bâtiments, ce mélange d'époque aussi. Autant Florence, c'est quand même le Quattrocento, il y a une sorte même d'orgueil, un peu l'impression que Florence s'est jamais vraiment a jamais voulu aller au-delà de ça, curieusement, ce qui fait aussi la splendeur de Florence. Mais Venise, le mélange d'époque, le mélange de tous ces artistes qui allaient sur une tellement longue période. Donc c'est une ville fascinante. On a l'impression d'être dans un décor de théâtre, un décor en carton-pâte tout le temps. C'est une des villes en Italie, je trouve, où on a le moins l'impression d'un sentiment d'insécurité que non. On peut se balader dans des ruelles sombres à 1h du matin. Sans... Enfin, peut-être c'est inconscient ce que je dis, mais on a quand même un sentiment d'être dans un décor de théâtre dans tous les plans. On a l'impression de participer à une sorte de grand opéra qui serait sur Venise.
Il y a un musicien, un claveciniste, qui a quelque chose de très théâtral dans sa manière d'être, c'est Scott Ross. Lorsqu'on le regarde lui aussi, lorsqu'on se représente ce qu'il a été, comme, on peut le dire véritablement comme personnage aussi. Vous l'avez rencontré à cette période?
Oui, alors j'ai rencontré exactement à cette période-là aussi. Je lui ai offert mon premier disque, je me souviens. Donc là aussi, j'ai pas travaillé avec lui, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Là aussi, deux personnalités du clavecin qui m'ont marqué beaucoup. Lui, d'un côté, et Blandine Verlet. De l'autre côté, là aussi, on peut imaginer difficilement deux personnalités plus différentes. Blandine nous a quittés il n'y a pas très longtemps, que j'aimais aussi beaucoup, qui m'a aussi beaucoup marqué par certains de ses concerts, par des moments qu'on passait ensemble qui étaient magnifiques. Et Scott Ross, ça reste pour moi un exemple, encore maintenant, de construction de la discographie, d'équilibre dans le jeu. C'est quelqu'un qui avait une vie qui a d'ailleurs été beaucoup exagérée, je pense, une sorte de côté mauvais garçon, qui est toujours une aubaine pour les médias. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui était un peu classique dans le baroque. Enfin, le jeu est extrêmement équilibré. Il y a quelque chose de complètement simple aussi dans le rapport à la musique. C'est quelqu'un qui gagne sur la distance. Je trouve, vous entendez une pièce, vous écoutez une sonate de Scarlatti parce que c'est très bien fait, vous trouvez que ça a beaucoup de goût, etc. Puis vous dites qu'il y a peut-être des versions qui vous frappent plus immédiatement. Mais Scott Ross, ce qui est formidable, c'est qu'il gagne sur la distance. Si vous écoutez un 10, 2 10, 3 10 Scarlatti, là, vous commencez par être complètement fasciné par le geste. C'est comme si le tout était supérieur à la somme des parties. C'est un peu ça défie les mathématiques. Mais quelque chose chez Scott Ross, une sorte de respiration, si vous écoutez sur une longue période, il y a quelque chose que je trouve complètement fascinant. Et c'est ça, c'est quelqu'un qui, pour moi, gagne sur la distance, à l'écouter beaucoup, je pense. Et Blandine Verlet, pour parler d'elle, c'est quelqu'un qui, là aussi, j'ai jamais oublié certains récitals. Je pense à un récital Couperin au Ranelagh dans les années, tout début des années 80, qui m'avait beaucoup marqué. Il y a un art de la respiration, de la mise en scène assez incroyable. Quelqu'un aussi qui a toujours été, j'ai aussi gardé ça comme encouragement, quelqu'un qui a toujours été extraordinaire avec les jeunes. Je me souviens des coups de fil que je lui avais passés pour mon prix ou comme ça, tellement encourageant. Tu sais, il y a des membres du jury, vous avez envie de fermer le clavecin et puis plus jouer pendant 3 semaines. Et puis, Blandine, elle avait cette qualité en jury de donner des ailes aux gens. C'est-à-dire que vous aviez envie de travailler 4 heures votre clavecin tout le temps après. Donc, elle avait cette écoute des jeunes qu'elle a toujours gardée, d'ailleurs, avec des jeunes musiciens maintenant. Elle a toujours eu ce côté-là extrêmement, pas seulement bienveillant, mais surtout extrêmement encourageant aussi. Donc, elle avait ce côté-là qui était formidable. Et puis, les auditeurs la connaissent bien, cette personnalité assez incroyable, un côté un peu Barbara du clavecin, assez étonnant, mais et effectivement fascinant.
Il y avait aussi, on avait l'impression, chez elle, des ténèbres, quelque chose de
absolument. Il y avait une partie très sombre chez elle, vous avez raison, quelque chose qui était à la fois lumineux et en même temps très sombre. C'était pas du pastel, hein, c'était vraiment des contrastes très importants.
Thank you.
1990, Olivier Beaumont, une date importante, vous réalisez l'intégrale du clavecin de Jean-Philippe Rameau. Pourquoi vous avez fait une intégrale? Est-ce que c'est une volonté qui était la vôtre ou c'était une demande d'éditeur?
C'était au départ une volonté qui était la mienne, je pense, aussi par cette chose que j'avais apprise de Kenneth, cette façon de voir l'ensemble d'un auteur, parce qu'on apprend plus sur un auteur si on travaille l'ensemble, je pense. En plus, Rameau, c'est quand même relativement raisonnable comme intégrale, c'est 3 disques, hormis les pièces de clavecin en concert que j'ai pas enregistrées, donc c'était quand même relativement raisonnable. J'avais fait en 1983, c'est un de mes tout premiers récitals à Paris, pour l'année Rameau, justement, et j'avais eu la chance d'avoir 2 instruments du musée de la musique qu'on m'avait mis à ma disposition, le goujon et le Rucker Stasquin, je pense, donc ça a déjà été, j'ai fait un récital autour de Rameau, bien sûr, pour l'année Rameau, il est né en 1683, et donc j'ai toujours Rameau en tête, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé cette musique-là, donc c'est vrai que c'est une intégrale qui était importante pour moi aussi parce qu'elle a eu, il y a eu beaucoup de papiers qui sont sortis formidables. Et j'ai fait là aussi des choix instrumentaux importants. C'est que pour le premier livre de Rameau, en 1706, il n'était pas encore parisien. Donc il voyageait beaucoup, il s'installe à Paris plus tardivement. Et donc je ne voulais pas un instrument parisien justement. Donc j'ai choisi ce clavecin de Pierre Donzelag de 1716 qui est à Lyon. C'est un son magnifique. Pas du tout parisien, justement, vraiment à la facture lyonnaise. Et je voulais un son différent. C'est même touchant de penser que Rameau était à Lyon, je pense, en 1715 de mémoire. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça. Et donc l'instrument date de 1716, donc il allait sans doute chez les facteurs de clavecin à Lyon, et peut-être qu'il a au moins vu, peut-être pas joué, mais il a pu voir en 1715 peut-être la caisse elle-même qui se fabriquait. Donc je trouve qu'il y avait quelque chose qui convenait très bien pour le premier livre. J'entendais pas ce premier livre avec un clavecin parisien, et puis j'ai pris au musée de la musique donc des grands clavecins parisiens ensuite, donc le Hemsch, le Goujon, le Rucker Stasquin, et aussi l'instrument de Kenneth Gilbert qui était un grand collectionneur, le fameux Blanchet, couché Blanchet Stasquin, que j'ai enregistré plusieurs fois, qui est un instrument magnifique que j'ai enregistré à Chartres quand la collection était à Chartres.
C'est si important d'avoir des instruments différents comme ça. J'ai l'impression que, là, vous me parlez de l'intégrale, c'est pas vers la musique d'abord que vous allez, mais c'est les instruments qui vous permettent de la faire.
Je dirais pas ça, je dirais plutôt que c'est la musique qui, pour moi, impose un choix de son. Donc c'est pas le son qui est en premier, c'est juste que j'ai une idée de la musique et je cherche le son qui va convenir. Et tant que j'aurai pas ce son-là, je fais pas. Par exemple, pour donner un exemple précis, j'aimerais faire un programme autour de la musique vénitienne, fin 18e, la fin de la République de Venise, que je trouve un moment très intéressant dans le clavier, un peu nostalgique, pas toujours de la très bonne musique, mais en même temps, il y a quelques pièces magnifiques, et j'ai pas trouvé l'instrument sur lequel je me dis, demain je vais faire le 10 tellement j'aime ça. Donc pour l'instant, je le fais pas, c'est exactement ça, c'est que tant que j'ai pas trouvé le son qui me paraît convenir à certaines pièces un peu tardives vénitiennes, j'aime mieux pas faire le 10 parce que ça m'intéresserait pas de faire un disque avec le son que j'aurais pas complètement choisi.
France Musique, les grands entretiens d'Olivier Beaumont.
Au moment où sort cette intégrale Rameau, Olivier Beaumont, vous avez 30 ans, on a envie de dire tout va bien, a priori, vous avez 10 ans de carrière derrière vous, déjà, des disques, beaucoup de concerts, ça marche très très bien, est-ce que vraiment tout va bien?
Oui, tout va bien, on peut dire, après, personne ne peut dire qu'il est complètement malheureux ou complètement heureux. Toute vie d'artiste est forcément un moment à prendre en main soi-même. Dans le sens qu'on a des métiers qui fonctionnent sur le désir, toujours des gens. Hein. Il y a, peut-être on peut dire que tous les rapports professionnels sont un peu du désir. On ne choisit pas n'importe quel médecin non plus, un médecin qu'on a envie de faire. Mais a fortiori, quand on est une personne de scène, qu'on soit comédien ou musicien, on fonctionne sur le désir des gens. Les gens ont le désir de vous entendre ou de ne pas vous entendre. Les gens ont le désir de vous engager ou de ne pas vous engager. Donc c'est une chose qui est forcément un peu à gérer. Quelquefois, le trop de désir peut être un peu effrayant. Quand on n'a pas du tout de désir ou des gens qui vous aiment pas du tout, c'est forcément difficile à vivre. Donc, c'est le moment où j'ai conseillé une analyse que j'ai faite pendant beaucoup, beaucoup d'années, qui a été très utile pour moi, justement, effectivement. J'en parle toujours volontiers parce que je pense que tous les amis que j'ai, musiciens ou comédiens, ont forcément fait ce type de choses à un moment ou à un autre. Il y a un moment dans sa carrière où on a presque, on éprouve presque le besoin de parler de ça. C'est pas forcément évident d'arriver sur une scène, de jouer, c'est pas forcément évident d'enseigner ou d'avoir reçu un enseignement. Donc je pense, moi j'ai eu besoin beaucoup de parler de ça. Ça a été une expérience pour moi, en dehors du fait que ça m'a fait beaucoup de bien dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Ça a été en plus pour moi passionnant intellectuellement. Enfin, ça a été une aventure intellectuelle absolument fascinante, et quand je vois le succès actuellement de la série En Thérapie, j'ai pas de télévision donc j'ai pas vu la série, mais je me dis voilà que l'analyse est encore de beaux jours devant elle quand on voit le succès d'une série comme En Thérapie.
Et vous, ça n'a pas été une thérapie, enfin une psychanalyse courte, du genre on y passe quelques mois ou deux, trois ans.
Voilà, moi j'ai vraiment sur le long terme. Voilà, sur le long terme, une chose, j'ai un rendez-vous toutes les semaines, c'est pas très original, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices connaissent ça très bien, c'est pas la question. Moi, ça m'a été très, très utile. Il y a des moments où je trouvais, c'est juste qu'on apprend une technique de pensée. C'est surtout qu'on est en face de quelqu'un qui est pas plus intelligent que vous, mais que juste une technique que vous avez pas de raisonnement. Vous savez, on a tous vécu des phrases qu'on prend en pleine figure qui vous blessent beaucoup. On a pu soi-même blesser des gens sans s'en rendre compte du tout. Donc, pour toute cette question de vivre mieux le quotidien, à la fois des répétitions de musiciens, mais de mettre le quotidien tout simple, quand vous rentrez une dame des postes, ou les compagnons avec qui vous êtes, ça vous apprend simplement à trouver le bon chemin pour être plus heureux, tout simplement. Et le plus beau compliment qu'on m'a fait, c'est un ami facteur de clavecin qui m'a dit un jour, t'es la dernière personne dont j'aurais pensé qu'il a fait une analyse. Et j'ai pris ça comme un compliment, parce que si effectivement l'analyse fait que vous rendez responsable, tout le monde était méchant avec vous, et que vous ennuyez un peu les autres avec votre analyse, donc j'en parle volontiers quand on me pose la question, mais jamais je dirais à quelqu'un, il faut que t'ailles faire une analyse. D'abord, il n'y a pas de décision plus privée, plus intime que ça. Jamais je ferai une chose pareille, surtout pas. Et puis j'en parle volontiers sur mon page, je m'en cache absolument pas. Mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui revient sur analyse tout le temps. C'était une période de ma vie qui a été très, vraiment très utile, et plus que ça, même indispensable pour moi.
On entre Olivier Beaumont là au tout début des années 90 dans les années couperin, parce qu'il va y avoir un festival, il va y avoir un livre, il va y avoir l'intégrale des pièces de clavecin bien évidemment au disque. Couperin, on a l'impression que c'est quand même votre compositeur. Si on prend tous les grands créateurs de cette période-là, celui dont votre intimité sans doute se rapproche le plus, en tout cas c'est l'impression que ça donne, c'est bien lui.
Oui, absolument. J'ai un rapport avec le compositeur presque tous les jours, je dirais, parce que oui, quotidien. C'est un auteur qui reste mystérieux pour tout le monde, je pense. C'est quelqu'un qui est presque impossible à interpréter. D'ailleurs, j'aimerais parler ça avec d'autres personnes qui ont fait l'intégrale Couperin. Il y a eu beaucoup d'intégrales d'ailleurs magnifiques dans bien des cas. Et c'est l'impression un peu que on a l'impression que cette musique est tout le temps rêvée et qui doit rester un peu en songe comme ça, et que si dès qu'on se mettait à la faire sonner, elle s'évanouissait, enfin, se détruisait d'elle-même. C'est un peu comme la scène tellement géniale dans Fellini Roma, vous savez, ces chercheurs à Rome qui rentrent dans une salle antique et le simple contact avec l'air fait que les peintures se disparaissent. Une scène d'absence géniale dans Fellini. Et Couperin donne un peu cette impression-là. Alors, soit on a une attitude et on fait une musique qui va sonner de façon un peu plus terrienne, plus franche, qui est une bonne façon d'aborder, un peu comme a fait Scott Ross, par exemple, dans l'intégrale, qui avec une égalité très prononcée, un clavecin magnifique à Château d'Assas. On donne ce côté-là, on donne un côté beaucoup plus rêveur, plus instable, comme a fait Blandine Verlet dans son intégrale, par exemple. Donc c'est difficile de trouver un équilibre, mais c'est un auteur, vous savez, on a quelquefois des auteurs dont le talent est énorme et l'impact sur le public tout petit, d'autres dont le talent est tout petit et l'impact sur le public très grand, et puis d'autres où le talent est énorme et l'impact sur le public est énorme, comme Bach. Hein. Mais il n'y en a pas tant que ça non plus dans l'histoire de la musique. Mais Couperin, il faut l'aimer énormément pour qu'il sonne un tout petit peu. Mais c'est aussi ce défi que je trouve intéressant.
Ce qu'est chez Couperin, donc je disais tout à l'heure, musicien de l'intime, c'est plus que ça, parce qu'un musicien, j'ai l'impression parfois pour amateur, c'est-à-dire pour jouer de soi à soi. Le public est presque secondaire dans la musique de Couperin. C'est peut-être ce qui explique aussi ce que vous disiez tout à l'heure, la difficulté finalement d'avoir avec lui un impact sur le public.
C'est Léonard qui dit une très belle phrase, dit que sans doute Couperin, il ne l'a pas su, mais est plus fait pour le disque que pour le concert. C'est vrai qu'il y a un manque de spectaculaire, de virtuosité comme ça, très un peu extraverti, qu'on a chez Rameau beaucoup. Par exemple, Rameau est tellement opératif dans son clavecin, c'est un des auteurs qui convient le mieux au concert, justement, comme Scarlatti, par exemple. Mais Couperin, c'est vrai que on n'est jamais aussi bien Couperin que si on l'écoute, je pense, chez soi, dans une chose un peu intime, presque en robe de chambre. On a ce portrait de Couperin officiel qui s'appelle La Couperin, donc, qui n'est pas Madame Couperin, mais la pièce sur Monsieur Couperin, en l'occurrence, donc qui est un peu son portrait public, comme la gravure qui est là. Et puis La Convalescente, que j'aime beaucoup aussi, qui est à la fin de dans le dernier livre de Classin, qui est un peu portrait de l'artiste en robe de chambre. Vous savez, il était un peu, malade imaginaire, c'est un peu dur de dire ça, parce que c'est pas totalement vrai, parce qu'il a quand même une santé défaillante. Mais clairement, La Convalescente, on a l'impression de lui, en train de tousser un peu, sans image romantique du personnage. Mais on a quand même, c'est vraiment portrait de l'artiste en robe de chambre. Donc il y a quelque chose qui est très touchant, et qui est finalement de l'ordre de l'intime, du journal secret. Et de temps en temps, avec des déferlements de violence qu'on n'imagine pas chez lui. Par exemple, la Passacaille du 8e ordre, qui est une pièce d'une fulgurance et d'une violence de sentiments incroyable. L'âme en peine aussi, qui est une pièce où on a rarement été aussi loin dans la douleur. Alors lui, qui est plutôt dans une douleur plutôt un peu, qui confine plutôt à la nostalgie, au regret, je trouve, une de ses pièces. Mais on n'a pas de douleur très extravertie. À part l'âme en peine, qui est quand même un cri déchirant qu'on a rarement chez lui. Donc il nous surprend aussi.
Quelqu'un Couperin, j'ai l'impression qu'il est très en attente de l'autre aussi, enfin très attentif à l'autre, presque quasiment empathique. Les titres en témoignent parfois lorsqu'il fait des portraits. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de compositeur plus tendre avec l'humain.
Oui, c'est vrai, on ne parle jamais assez de la tendresse dans la société actuelle, je trouve, mais le tendrement sans lenteur qui est tellement beau chez Couperin, on parle beaucoup de fulgurant, de choses comme ça, mais la tendresse n'est pas toujours assez mise en valeur, et notamment dans sa musique. Et les indications qu'il donne, effectivement, c'est vrai, sont une sorte de défi à l'interprète. Dans les Irlandes, par exemple, il marque « amoureusement sans langueur ». Et ben, pour un interprète, il n'y a pas plus génial qu'à d'essayer de trouver comment je vais jouer amoureusement sans langueur. Hein. Donc il y a des titres qui sont juste... C'est incroyable. Mais je trouve la phrase qu'il cite, qui pour moi est une phrase très importante, « J'aime mieux ce qui me touche que ce qui me surprend », une phrase magnifique et bien connue. Il y avait un claveciniste une fois qui disait qu'il attendait de la jeune génération qu'elle le surprenne. Moi, j'ai envie de dire plutôt que j'attends plutôt la jeune génération qu'elle me touche, plutôt parce que c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué chez Couperin. Le verbe « toucher » est extrêmement important parce que c'est à la fois toucher une clavecin, mais c'est toucher le public aussi. C'est ça qui est beau dans le verbe toucher. C'est très riche le verbe toucher. Couperin le dit lui-même d'ailleurs, il parle de l'art de toucher une clavecin, mais il dit aussi j'espère avoir assez de dons, là aussi je cite de mémoire, pour arriver à toucher les personnes de goût. Donc il dit bien, il y a l'art de toucher une clavecin, c'est l'art de toucher le public aussi. Et ça, je trouve ça très beau, le mot toucher est extrêmement riche dans la langue française.
Thank you.
Olivier Beaumont au clavecin dans La convalescente de François Couperin. Merci à Marie-Christine Ferdinand, Lionel Quentin, Sébastien Huel et Nicolas Depagraphe. Vous retrouvez les grands entretiens sur le site francemusique.fr et sur l'application Radio France. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.